Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour une autre émission des Mille et Une Bulles. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver. Je suis donc Chris Arnal et chaque semaine, je vous présente une interview d'un auteur BD. Cette semaine, nous avons la chance d'accueillir un auteur BD que j'apprécie particulièrement. C'est Philippe Fenech. Bonjour Philippe, comment vas-tu ?
Bonjour Chris, ça va très bien, et toi ?
Bien, écoute, impeccable, hein, je suis ravi de t'avoir auprès de nous.
Pareil, très
donc,
heureux aussi.
Ouais, moi aussi. Dis-moi, donc tu es né donc un 1er avril 1976 à Montpellier, je ne me trompe pas ?
Exactement, c'est ça.
Et du coup, question... Les BD qui t'ont le plus marqué dans ton enfance, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une, mais quelles sont les BD qui t'ont le plus bercé en fait ?
Ah bon, les deux principales, bon, il y en a une, tout le monde le sait plus ou moins, c'est Astérix. Hein, et j'ai découvert le même jour en fait, c'est un oncle qui m'a offert deux albums de BD, qui ont été donc Astérix, c'était l'Odyssée d'Astérix, et Tintin et les Picaros, qui était le dernier Tintin sorti en date. Donc ça c'est les deux BD, on va dire, historiques, première BD que j'ai eue. Donc j'ai de suite accroché aux deux, même si une m'a plus inspiré que l'autre, on va dire graphiquement. C'est vrai que Tintin, j'adore et j'aime toujours, mais par contre, ça ne m'a jamais vraiment inspiré graphiquement ni rien. Et l'autre série que je suivais quand j'étais petit, c'était aussi Yakari.
Donc, voilà, ça, ah oui, de dérive.
Les
ouais.
Voilà, les ça... deux étant petit.
C'est, ah oui, tu vois, j'y pensais pas, dérive, mais c'est vrai que ça a bercé tout le monde, avec Buddy Longway aussi.
C'est, oui, ouais. Voilà, c'est, ça. Alors, c'est vrai que moi, Buddy Longway, je l'ai découvert plus tard, au CD de mon collège, mais ouais, c'est vrai que c'est Yakari, c'était ma marraine. En fait, moi, quand on me demandait ce que je voulais comme cadeau, je demandais des BD, tu vois, donc voilà, moi, c'est ma marraine qui s'occupait de...
On a eu la même chose, moi, je demandais pas de dictionnaire, je demandais des BD, c'était plus simple. Donc, du coup, on va faire un survol de ta carrière qui est quand même assez grande. Tu as débuté en 2004, c'était aux côtés de Kurt Riddell pour la série Tuf et Koala. C'est ça ta première série ?
Alors ça, c'est ma première BD. J'ai pas... c'est la première fois que j'ai fait une BD tout seul, originale, parce qu'avant, j'avais déjà participé à un album de gags chez Glénat, en fait. Hein. C'était genre Mille et une histoires d'eux. Donc ça, c'est les premières planches que j'ai eu de publier en album. Ça a été... ça a été ça, mais bon voilà, c'était trois planches dans une petite BD, tu vois. C'était avant, j'avais quand même commencé chez Disney dans la presse, chez Disney Press en 2000 ans. Et voilà, mon premier album, effectivement, c'est 2004, hein, c'est Tu fais Koala, Le secret de la vallée maudite, et avec cœur de grand auteur que je lisais étant petit, qui m'avait fait l'honneur de faire le scénar à l'époque.
Et oui, notre ami Kurt Riddell, que au passage j'envoie un bonjour, parce que normalement début d'année prochaine, on devrait aussi se retrouver dans l'émission. Du coup, ensuite, bon, je dis, si je ne me trompe pas, je sais que tu as fait la série, par exemple, Anatole et compagnie, oui. Léo Passion Rugby, Un héros presque parfait, que je connaissais, que j'appréciais. Enfin, je ne dis pas ça parce que tu es là, mais c'est la vérité. J'apprécie beaucoup cette série. Ulysse.
Oui.
Et... alors, c'est pas que je ne veux pas parler d'autres BD, mais bon, c'est vrai qu'au niveau timing, je fasse attention. Il y a surtout la grosse série, donc ça s'appelle Mécops, que tu voilà, édites, je crois, c'est depuis 2013 chez Bambou, c'est ça ?
C'est ça. Premier album est sorti en 2013 chez Bambou, donc ça fait 10 ans cette année que je fais cette série.
Et comment Olivier Sulpice a proposé ça ?
Ah, alors ça, c'est... Olivier et moi, on se tournait autour depuis un moment. Enfin, c'est surtout moi qui tournais autour de lui.
Oui.
bon, il n'avait pas autant grossi à l'époque, donc c'était plus facile de tourner autour de lui. Et ça, on ne lui répétait pas. Enfin, s'il écoute l'émission, il va m'en vouloir après. Et, ouais. Et donc, voilà. Et puis, pour les 10 ans de carrière de Christophe Cazeneuve, qui était un copain, quelqu'un avec qui j'avais très envie de travailler, parce que j'appréciais autant son travail que l'homme. Ils ont fait un concours chez Bambou pour trouver qui serait le dessinateur de la nouvelle série de Christophe, quoi. Et donc voilà, Christophe m'a demandé si je voulais participer. Donc moi je lui ai dit oui, c'est vrai que c'était je me dis que c'était une occasion. J'aimais bien le thème qu'il proposait, donc qui était le thème de l'adolescence et faire une BD ayant pour cœur des amis, des filles. Surtout que moi, j'étais papa d'une petite, hein, et je me dis, tiens, ça serait pas mal que je fasse enfin une BD qui lui parle aussi à elle, en fait. Hein. Et donc voilà, donc j'ai participé, j'ai fait une planche que j'ai hésité à envoyer après, parce que j'ai vu que de grands noms participaient à ce concours-là. J'ai vu des planches notamment d'Elsa Brandt que j'aime beaucoup et je trouvais que c'était super ce qu'elle avait fait, donc j'avais presque un peu honte d'envoyer la mienne. Et puis voilà, il se trouve que c'est moi qui ai été choisi. Voilà, j'ai réussi à trouver à qui donner le chèque pour être choisi.
Mais ce qui est génial, c'est que bon, la série marche bien, c'est vrai, il y a 12 tomes, je crois, qui sont sortis.
Il y a même 14 tomes qui sont sortis.
14, oui. 14 tomes qui sont sortis. J'ai qu'à vérifier mes infos, donc on va mettre 14, je corrige. Voilà, excuse-moi.
Je suis en train de travailler le 15e, là.
Impeccable. Et donc, malgré que tu as les cops qui te prennent quand même beaucoup de temps, eh bien, il est arrivé l'événement, enfin, j'imagine que c'est un événement pour un dessinateur fan du Derzo, c'est qu'on t'a proposé donc le crayon pour dessiner Idéfix. Alors, franchement, ouais, comment c'est arrivé? C'est un concours aussi? Comment ça s'est passé?
Non, pas du tout. C'est arrivé, alors, chez moi, c'est arrivé bêtement par un mail de directeur éditorial des éditions Albert René. Donc un matin, je me lève tranquillou comme tous les matins, je prends mon temps et puis je monte et première chose que je fais, c'est toujours regarder mes emails. Et là, ouais, je tombe sur cet email-là de « Bonjour, je suis Dionne Cloteau, directeur éditorial des éditions Albert René, on aimerait faire une série sur Idéfix, est-ce que ça vous tenterait ?» Bien sûr, je l'ai relu 25 fois, t'imagines.
En fait, t'as dit, est-ce que je rêve ou pas, quoi ?
Je me dis, est-ce que je suis en train de rêver ? Est-ce que c'est une blague ? Et puis non, c'était bien ça. Et en fait, j'ai appris après qu'ils avaient pensé à moi suite à une petite planche de bande dessinée que j'avais fait pour fêter les 60 ans d'Astérix, donc en 2019, où j'avais dessiné Astérix comme si c'était un personnage existant. Donc on le voyait à différentes étapes de sa, on va dire, carrière. Donc vous voyez sa naissance, donc je l'avais représenté en bébé dans les bras de Albert Uderzo et René Goscinny, tu vois. Après, je l'avais représenté dans l'espace pour fêter le premier satellite français qui s'appelait Astérix. Hein, et puis, je l'avais représenté face à Christian Clavier et Gérard Depardieu. Tu vois, voilà, j'ai retracé, si tu veux, les 60 ans d'une vie épique. Je l'avais appelé comme ça, d'ailleurs, la petite BD. Et ça a fait le tour des réseaux. Ça a pas mal tourné et c'est arrivé jusqu'aux éditions Albert René. Et voilà, ils ont beaucoup apprécié cette petite planche, pardon, j'ai un petit peu bafouillé. Et c'est comme ça, voilà, qu'ils ont pensé à moi quand ils ont eu besoin d'auteurs pour Idéfix.
Eh bien, franchement, c'est génial et j'imagine la joie que tu as dû avoir. Donc, la question un peu que je me pose, voilà, c'est que bon, maintenant tu dessines Idéfix et tout, je sais qu'il y a un album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça fait quoi de dessiner, on va dire, à la place d'Uderzo, comme Uderzo d'avoir pris le relais? C'est une grosse pression pour toi? T'as peur, franchement, de pas faire bien? Ou au contraire, tu le fais avec grand plaisir et puis tu te poses pas la question, quoi?
Alors, c'est un petit peu tout ça, en fait. C'est que, oui, j'essaie de le faire le mieux possible. Alors, j'essaie de dessiner, effectivement, que ça rende le plus possible hommage à Uderzo, parce que dessiner comme Uderzo, de toute façon, c'est impossible. Ce mec, c'était un génie. C'est comme écrire comme Goscinny, c'est impossible aussi. On peut essayer de faire quelque chose qui lui rend hommage, qui soit dans l'idée d'eux, mais dessiner comme, voilà, faut de toute façon se dire que c'est pas possible. Alors c'est vrai qu'au départ, j'ai eu la pression, vraiment une grosse pression au moment où je me suis mis sur ma première planche. J'ai eu une grosse pression, quoi. Et après, on se dit, bon, c'est pas Astérix, c'est Idéfix, donc il y a des personnages que Albert Uderzo ne dessinait pas, donc je vais pas être comparé là-dessus, déjà. Il y a un petit peu tout ça, tu vois, qui rentre en jeu à ce moment-là. Et puis après, il y a le plaisir qui arrive, quoi. Vraiment le plaisir de dessiner comme on dessinait quand on était petit, parce que moi, j'ai appris à dessiner en recopiant l'Astérix, tu vois, donc... Je suis en train de faire mon métier et je fais ce que je faisais quand j'étais petit par plaisir et je suis en train de le faire pour mon métier là en ce moment.
Je me mets à ta place, ça doit être, franchement, ça doit être vraiment génial. Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que donc en septembre dernier, tu as eu un septembre très très chaud pour toi, un déplacement et tout, un véritable globe-trotteur, Philippe Fenech, pardon, excuse-moi. Toi, moi aussi, je bafouille. Tu as fait, je te demandais juste en deux trois phrases de me résumer, même si c'est quasiment impossible. Mais tu as fait par exemple une dédicace d'Idéfix, ça je revenais pas, à Medellin en Colombie. Comment déjà ils connaissent Idéfix en Colombie? C'est vraiment mondial en fait.
Oui, alors Astérix est connu mondialement. Hein. Il y a vraiment qu'aux États-Unis où ça n'a pas pris autant qu'ailleurs, mais c'est connu mondialement. Astérix, c'est plus de 380 millions d'albums vendus dans le monde entier en fait. Hein. Et d'ailleurs, quand Uderzo est mort, on a presque plus pleuré en Argentine ou en Amérique du Sud qu'en France. Tu vois, c'est presque passé inaperçu en France, ça a été relayé vachement là-bas. Donc oui, c'est des personnages qui sont très connus. Et Medellin, en fait, donc voilà, j'y suis allé parce que les albums d'Idéfix sont arrivés en Amérique du Sud. Et il se trouve qu'il y a une très grande foire du livre à Medellin qui a lieu chaque année. C'est immense, hein, tu peux pas imaginer, en fait, rien de ça n'existe en France, en fait. C'est une fête pendant plus d'une semaine, c'est vraiment énorme. Et donc voilà, donc du coup, cette année, c'était la France qui était à l'honneur, et du coup, moi, j'étais... invité pour venir représenter Idéfix et ça a été super, c'était génial de voir une autre culture et de pouvoir faire vivre et connaître ce petit chien là-bas.
Et en plus, tu vois, tu me parles de culture, alors j'espère, entre parenthèses, que t'as pas eu le mal de l'air, parce qu'en fait t'as repris l'avion après, parce que t'es parti carrément à Norvège, je crois que c'était à Bergen pour un gros salon.
Exactement.
Comment?
Exactement, voilà, c'est ça. J'ai fait le grand écart, si tu veux. Je suis parti de Medellin, juste le temps de repasser deux jours à la maison, changer d'avis, parce que c'est pas du tout le même climat. Et puis reparti à Bergen, donc c'est la deuxième ville de Norvège, Bergen, et c'était pour un festival pour lequel j'avais fait l'affiche cette fois. Il m'avait demandé
Je l'avais vu. Alors excuse-moi, voilà. Je tiens à te dire qu'elle était sur un bateau et tout, t'as eu que des sur les réseaux, t'as eu que des compliments. Et d'ailleurs, je te le fais direct, le compliment. Le dessin était somptueux. Je tiens à te le dire direct.
Merci.
C'est vrai,
merci. Ah,
fabuleux.
Bah écoute, elle a vraiment plu. Effectivement, j'ai eu de très très bons retours sur cette affiche. Ça m'a fait plaisir vraiment. Les couleurs étaient de Camille, ma compagne, qui m'a suivi sur les COPS pendant 10 tomes. Et voilà, qui est aussi dessinatrice, elle qui avait fait les couleurs, et on a eu de super retours dessus. J'étais vraiment content, quoi, du retour. Et donc voilà, ça a été le voyage, on peut pas faire plus antinomique que la Colombie et la Norvège, et c'était super intéressant de voir les différences de culture, la différence de vie, c'était super étonnant.
Différence de culture et de climat. Après, tu es revenu dans le climat français. Avant de faire la petite pause musicale, dis-nous quand même en deux, trois lignes, hein, parce que en fait, tu as fait, on va dire, des dédicaces et des fixes carrément à la maison, c'est-à-dire au parc Astérix.
Oui.
Et en plus, j'ai lu dans une interview que tu n'y étais jamais allé. Raconte-nous alors comment ça s'est passé en deux, trois mots, s'il te plaît.
C'était retour à la niche pour Idéfix.
Oui, c'est vraiment ça.
On a fêté la sortie du tome 5. Qui était un tome un peu particulier parce qu'une histoire originale et non tirée du dessin animé, et en plus une histoire complète, donc c'est pas trop petite histoire pendant les 4 premiers tomes. Et on a décidé de fêter la sortie de ce tome-là au parc Astérix, donc avec des gamins qui étaient là, qui ont été choisis, qui sont venus, à qui j'ai appris à dessiner Idéfix. Et puis après, voilà, il y a eu une séance avec la presse, dédicace. Et effectivement, c'était la première fois que j'ai été au parc Astérix, et ça a été une sacrée première fois, du coup. Je m'en souviendrai souvent, longtemps, quoi.
Petit vénard, j'y suis pas encore allé, faudrait que j'y aille.
Ah, j'en parle.
Ah oui, j'avoue que...
Ah ouais, c'est l'occasion, c'est vraiment génial, quoi. Vraiment...
J'irai, je connais Philippe, au moins.
Voilà, c'est
ça. Tranquille. Écoute, on va faire une petite pause musicale que tu as choisie. C'est Veillé tard, ouais, de Jean-Jacques Goldman. Merci à toi.
Merci.
Présence à Figeac, 97.7.
Les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, l'on est face à soi. Les frissons ou l'amour et l'automne s'en mêlent. Le noir où s'engloutissent autrefois nos lois. cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes quand même on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents, ces lueurs tardives, ces morsures aux regrets qui se livrent à la nuit, ces solitudes dignes au milieu des silences, ces larmes si paisibles qui coulent inexpliquées, ces ambitions passées mais auxquelles on repense comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces liens que l'on sécrète qui joignent les êtres, ces désirs évadés qui nous feront aimer, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard.
Et voilà, nous voilà de retour donc pour les mille et une bulles consacrées donc au dessinateur Philippe Fenech. Philippe, donc nous avons fait le tour de ta carrière et tout. La petite demande que je demande à chaque fois, et j'aime bien savoir parce que bon, je sais que vous les dessinateurs, vous êtes attablés à votre table à dessiner sans arrêt, ou alors les dédicaces et tout, vous n'avez pas trop de temps, mais est-ce que justement Philippe Fenech, dans sa vie, il a autre chose que la BD ?
Ah, mais c'est oui, j'ai plein de passions. J'ai fait du théâtre pendant très longtemps. Malheureusement, c'est assez chronophage et j'ai besoin de temps le week-end pour quand on voulait faire jouer les pièces et tout. Donc ça, j'ai plus le temps. Mais oui, j'ai toujours la musique en fait. Tu vois, on vient d'écouter une chanson de Goldman qui me touche particulièrement par son thème. Mais oui, j'adore la musique. Je manque pareil beaucoup de temps pour en faire. Moi, j'aime particulièrement créer, donc quand je fais de la musique, je compose aussi. Et voilà, donc oui, c'est ça ma passion, c'est ça. Et puis j'aime beaucoup les voyages, comme tu as pu t'en rendre compte tout à l'heure.
Oui.
C'est quelque chose que j'aime particulièrement. J'aime marcher dans la nature et je pense que ça, c'est la composante essentielle de moi. C'est mon rapport à la nature et le fait que j'adore passer du temps dans cette nature.
Et justement, je vais rebondir dessus parce que tu dis que bon, t'aimes beaucoup la musique et tout. Petit clin d'œil à mon ami William qui, lui, il arrive à dessiner sur, entre autres, sur du Chaka Ponk. Sur quoi tu dessines ? Est-ce que tu as un fond musical quand tu dessines ?
Ah, alors moi, c'est. Je pense que la musique perpétuelle de ma vie, c'est les Pink Floyd. Je pense que c'est.
J'ai
passé une semaine sans que j'écoute les Pink Floyd quasiment dans leur totalité. Sinon, j'adore la musique de film aussi. Je bosse beaucoup en musique de film. Ça dépend de l'étape de mon travail. Quand je fais du découpage, j'ai besoin de quelque chose de non parlé. Donc, ça va être la musique de film à ce moment-là. Sinon, après, quand je crayonne ou quand j'encre, Ça peut être de la chanson, des podcasts, ça m'arrive même de mettre des séries en fond. Mais oui, en termes de musique, c'est ça, c'est rock et musique de film.
Oui, donc j'imagine que tu ne peux pas bosser sans musique derrière toi, quoi.
Non, moi, bosser sans rien, de toute façon, c'est très compliqué. J'ai besoin d'être bercé.
Oui, comme la plupart des dessinateurs. Donc, on va faire, donc j'imagine que le quiz BD, allez, tu as réfléchi sur qui je vais te poser des questions.
Oh, au hasard, je vais dire Uderzo.
Ah, oh, très bien joué. Bon, après, j'ai pas été méchant. Comme je dis à chaque fois aux auteurs invités, c'est pour le fun, mais c'est vrai que des fois, c'est sympa. Donc, la première question, toute simple. D'ailleurs, je crois que même les gens qui ne connaissent pas trop la série connaissent la réponse. Pourquoi Obélix, il ne doit surtout pas boire de la potion magique, Philippe Fénès?
Ah, je pense que c'est parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ah,
c'est génial parce que vous le voyez pas, chers auditeurs, mais j'ai la tête de mon assistant Armand et il a failli lever le doigt pour répondre. Voilà, c'est bien Armand, mais tu joues pas, désolé, tu joues pas. Donc voilà, oui, qui ne connaît pas,
c'est ça, c'était pas une question piège, c'est bon.
Mais faut être honnête, cette phrase, tomber dedans étant petit, je sais que moi j'ai déjà entendu des gens le dire, mais ils sont pas spécialement BD. Comme quoi, déjà toi, Uderzo.
Ah oui, passé dans le langage courant, oui.
Exactement.
C'est passé dans le langage courant, comme avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête.
Ouais, ça aussi,
Ils sont foussés, c'est des choses qui sont tombées dans le langage courant. Et c'est vrai que le coup de la potion magique, c'est peut-être la phrase la plus connue, en fait. C'est ce qu'on dit le plus souvent. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que si Obélix est tombé dedans quand il était petit, la phrase existait avant et que Goscinny a fait un clin d'œil à sa phrase, alors que non, c'est la phrase vient vraiment d'Astérix.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Ensuite, donc, la petite question numéro 2, toujours facile. Enfin, facile, je le savais pas trop, en fait. Pourquoi le chien d'Obélix se nomme-t-il Idéfix?
Bon, alors ça c'est historiquement, Idéfix apparaît dans le cinquième tome d'Astérix, le Tour de Gaulle. Il apparaît un petit peu par hasard, c'est Uderzo qui a décidé de faire suivre ce petit chien, que les héros soient suivis par ce petit chien. Et les lecteurs ont adoré ce petit chien, ont demandé comment il s'appelait et tout. Et donc du coup ils ont créé un concours. Et c'est les lecteurs qui ont dû choisir le nom du chien, et puis le nom qui est le plus revenu et qui a le plus plu aux auteurs, c'était Idéfix.
D'accord, et tu sais, enfin, pourquoi justement cette race-là, ils voulaient vraiment un petit chien, ils n'avaient pas de race spéciale?
Non, en fait, René Goscinny avait mis dans son scénar un petit chien, il avait juste précisé un petit chien attend devant la boufferie. C'était un petit gag, en fait, c'était marrant d'imaginer un chien qui attend d'avoir une boucherie, parce que boucherie, il y a toujours quelque chose à voler pour un chien, et voilà, quoi. Et Albert lui dit, est-ce que ça te gênerait que ce petit chien suive les héros sans qu'ils s'en aperçoivent? Et René, il n'y a pas vu d'objection, on trouvait même que c'était plutôt marrant comme idée, donc voilà, pourquoi ce race-là? Il a changé, hein, de toute façon, Idéfix, c'est pas le même qu'au début. Au début, il était plutôt petit, tout touffu, avec les oreilles qui tombent, pour finalement évoluer vers un chien plus effectivement petit, mais moins gras, on va dire, moins poilu, avec les oreilles plutôt relevées.
Mais à moi, moi c'est vrai que je fais le malin à chaque fois d'aller quiz, mais je cherche sur Google, et en fait sur Google, eux ils disent, pour Idéfix entre autres, que en fait s'ils ont donné ce nom-là, c'est parce que c'est un chien qui a du caractère, qui est fonceur et qui a les idées fixes. Je sais pas si c'est vrai, si c'est un fake.
Je pense que c'est un fake, vu que c'est les auteurs qui ont, enfin c'est les lecteurs qui ont choisi, et qu'à l'époque il est fixe et on connaissait pas son caractère, en fait. Hein. Je pense que le caractère est peut-être plus venu de son nom, c'est peut-être plus l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que vu qu'ils ont choisi le nom avant qu'on revoie le personnage, parce qu'en plus l'album qui suit c'est Astérix chez Cléopâtre, et Idéfix ne suit pas, mais si il les suit, hein. Mais on le découvre vraiment avec ses idées fixes que dans Astérix et Cléopâtre, au moment notamment où il va aller chercher dans la pyramide et qui l'attend pour ses os à tout prix, quoi.
D'accord.
Mais voilà, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Je pense que les auteurs ayant ce nom d'idées fixes, après lui ont donné ses idées fixes à propos des arbres, à propos des os et contre les Romains.
Pour la troisième question, j'espère que tu as la mémoire des dates. Est-ce que tu sais en quelle année est sorti le premier Astérix?
Alors, Astérix a été créé en 59, mais le premier est sorti en 1961.
Alors, c'est bien parce que tu avais une info que j'avais pas, mais 59, oui, c'est impeccable, c'est la même.
Ouais.
On va revenir, alors j'avoue que bon, j'aime beaucoup Astérix, Obélix comme toi, mais particulièrement Obélix, très très facile bien entendu, parce que je ne suis pas méchant. Quel est le métier d'Obélix, ça, s'il te plaît?
Oui, tailleur de menhir.
Voilà. Alors, l'autre question, c'est, bah, elle est aussi facile, mais j'adore ce personnage, même si dans la série, personne ne peut le sentir. Quel est le nom du barde, s'il te plaît?
Ah, Assurance Touriste.
Et tu vois, c'est ça qui est génial. Enfin, moi, c'est ça que je trouve génial avec Uderzo et Goscinny, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est oui, tous ces noms qu'ils ont trouvés. Tu vois, Assurance Tourix, c'est Assurance Tourisque. Tu vois, tous les, c'est génial.
Enfin, oui, c'est des jeux de mots. Ouais,
tu as des jeux de mots extraordinaires.
Oui, et puis Uderzo par la suite, quand il a repris tout seul. Mais ah, oui, c'est génial, c'est génial. Et en plus, après, ils se sont... Au début, c'était pas trop ça, mais après, ils se sont... démerder à ce que les personnages aient le caractère de leur nom, quoi. Donc c'est marrant aussi, quoi.
Non, j'avoue que c'est génial d'avoir fait ces petits clins d'œil, mais Astérix, c'est bourré de clins d'œil. Dernière petite question, s'il te plaît, mon ami, donc je suis toujours en direct avec mon ami Philippe Fenech. On va finir par: connais-tu le jour, malheureusement, de la disparition de la légende Albert Uderzo?
Oui, c'était pas un jour. Enfin, le jour. L'année, c'était 2020, parce que c'était au début du. C'était en mars 2020, il me semble que c'est le 24. Enfin, je suis pas persuadé, mais je pense que c'est le 24. Il est né le 27 avril. Non, le 25 avril, il est né. Et donc, oui, je pense que sa disparition, c'est effectivement le 24 mars. Je sais que c'était quasiment un mois avant son anniversaire. Et 2020, ça, c'est sûr, parce que c'était au tout début du. Au début du Covid, et que c'est à cause de ça que la presse n'a quasiment pas parlé. Ça s'est passé quasiment à l'heure.
Quasiment aperçu, malheureusement. Mais en tout cas, je ne t'aurais pas collé. Moi, je pensais pas te coller, mais c'est bien le 24 mars 2020. C'est nickel.
2020. Ah ben voilà, j'avais un petit doute sur la date précise. Mais voilà, c'est 2020, j'étais sûr de toute façon que c'était ça, quoi.
Donc, mon ami, malheureusement, écoute, on est obligé de se quitter, c'est comme ça, malheureusement. Juste, je vais te dire au revoir, et si tu as un petit mot de la fin, avant que je conclue moi-même, n'hésite pas.
Alors, moi, je tenais juste à dire que je suis particulièrement touché d'avoir fait cette émission avec toi, parce qu'en plus, l'Aveyron est ma région de cœur, en fait. J'y passe mes vacances depuis tout petit, et donc, du coup, je suis super heureux... d'avoir passé ce moment avec toi, d'entendre ce bel accent aveyronnais dans ta voix aussi.
En fait, moi, si tu veux, je suis lotois, mais mes parents sont aveyronnais.
Voilà. Ah, d'accord, voilà. Bah,
écoute, d'où l'accent. Dans quel endroit de Rodez de l'Aveyron, tu es venu?
Faites moi, je viens, chaque année, je viens au-dessus de Sainte-Afrique.
Ah oui.
Donc, sud Aveyron.
Voilà. Mais moi aussi, toi, j'ai appris. Voilà, c'est nickel. Voilà. Mais écoute, je te dis un gros merci encore une fois d'être venu, parce que moi aussi, ça.
Merci Armand. Je sais qui est derrière et qui lève les doigts, lever les doigts pour répondre.
Oui, et là, tu vois pas son smile, mais il est content qu'on pense à lui, parce que voilà. Écoute, merci à toi, merci aux auditeurs donc des Mille et Une Bulles de m'avoir suivi encore une fois pour cette émission. Je vous rappelle donc que cette émission sera diffusée mardi prochain à 20h30. Après, vous pouvez aller donc sur mon groupe Facebook et sur le site de Radio Présence. Il ne faut pas oublier qu'il y a des replays, qu'il y a des podcasts. Faire voyager le podcast, parce que j'ai fait une petite anecdote tout à l'heure à mon ami Armand en face de moi, que notre émission voyageait même au Brésil. Donc j'avoue que je suis ravi. Donc prochain invité, mes chers amis auditeurs, c'est la dessinatrice Carbone. Merci encore de nous avoir suivis. Merci à toi, Philippe.
Merci à vous. Et puis, le bonjour à Carbone la semaine prochaine, du coup.
Ok, mais je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Au revoir.
Allez, salut. Merci beaucoup.
Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.